Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.
Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Joanne Mercher, qui est bibliothécaire à l'UBO et qui est déléguée syndicale Force ouvrière. Et nous allons nous intéresser plutôt à son parcours de militante syndicale. Bonjour Joanne.
Bonjour Hervé.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez décrire votre parcours depuis peut-être le bac jusqu'à votre métier de bibliothécaire et parallèlement ou ensuite pourquoi, comment, enfin quelles sont les étapes qui vont amener à réfléchir à l'idée de militer, de participer à un syndicat, déjà de se syndiquer. C'est loin d'être évident aujourd'hui et d'en devenir même une actrice.
Alors, moi, j'ai passé un bac en arts plastiques et au sortir de ce bac, j'ai voulu préparer l'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et donc, j'ai fait pendant 2 ans une préparation à cette école. Donc, j'ai fait du dessin, en fait, pendant 2 ans. J'étais admissible, il ne me restait plus qu'à étoffer un petit peu mon dossier. Et donc, je me suis dit que j'allais étoffer mon dossier tout en travaillant. J'ai cherché du travail et j'ai été embauchée chez un artisan qui était maquettiste volume, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait des effets spéciaux pour la publicité et des maquettes pour les musées comme le musée de la Villette, la rénovation de la grande galerie du Muséum à Paris. Et finalement, comme le métier m'a bien plu, je n'ai pas retenté les beaux-arts. Et puis, je faisais exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on faisait de la sculpture, du dessin, des maquettes, de l'assemblage.
Et pourquoi passer dans les bibliothèques, ça me semble moins excitant, parce que je suis moi-même bibliothécaire.
J'ai fait ça pendant 10 ans, donc c'est un métier qu'on exerce à Paris. Et... Alors, entre-temps, j'ai quand même un jour repris mes études, puisque j'ai voulu rentrer à l'université. Et comme je ne savais pas trop bien comment ça marchait, je voulais faire de l'archéologie. Et donc, j'ai été au bureau d'inscription le plus proche de chez moi, et c'était la Sorbonne. Et en fait, j'avais en tête une formation qui était à Tolbiac, mais moi, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul bureau d'inscription pour tout Paris. Et donc, j'ai dit, je veux m'inscrire en archéologie. On m'a dit, oui, histoire de l'art, archéologie. Alors, je dis, oui, mais moi, c'est archéologie. Oui, histoire de l'art, archéologie. Et je me suis retrouvée en histoire de l'art, parce que l'archéologie n'arrivait qu'en 3e année. Donc, j'ai voulu changer. On m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, j'ai fait de l'histoire de l'art et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art tout en continuant à travailler à temps plein.
D'accord, on est encore loin des bibliothèques.
Oui. Et donc, j'ai eu mon premier gamin et là, ça devenait compliqué de vivre à Paris. Et donc, on a tout quitté pour revenir en province. Et là, je suis restée 3 ans au chômage, j'ai fait des petits boulots.
Ah oui?
J'ai entre autres fait des remplacements dans un CAT, un centre d'aide par le travail. Et je me suis dit, je vais passer le concours d'EDUXP. Mais pour préparer ce concours, je suis rentrée en année de préparation à l'administration générale, une année de préparation au concours à l'UPAC de Brest.
Qui prépare à tous les concours.
À tous les concours. Et donc là, on nous a dit, il faut passer tous les concours, ça vous entraîne, après vous choisirez. Donc j'ai tout passé. Tout ce qui s'est présenté cette année-là, les douanes, les IRA.
Ah oui, vous étiez prêt à aller n'importe où finalement.
Ça faisait partie de l'entraînement.
D'accord.
En fait. J'ai passé donc le concours d'EDUXP que j'ai eu et en parallèle, il y a eu une formation aussi à la demande de gens qui travaillaient déjà dans les BU et qui étaient contractuels, une formation pour les concours des bibliothèques et je me suis dit pourquoi pas, j'y connaissais rien du tout aux bibliothèques. Donc j'ai suivi aussi cette formation-là, j'ai passé aussi ce concours. J'ai eu le concours d'EDUXP, donc je suis rentrée à l'école et au bout de 3 mois d'école...
À l'école d'EDUXP, oui.
D'EDUXP, l'IRTS.
Oui.
Ou l'ITES, je ne sais plus, l'ITES, je crois. Et au bout de 3 mois que j'avais commencé l'école, j'ai reçu un recommandé comme quoi j'étais admissible au concours de bibliothécaire adjoint à l'époque.
Et vous préfériez être bibliothécaire adjoint qu'éducateur ?
J'avais pas de préférence, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'étais au chômage avec un gamin, mon conjoint était au chômage aussi. J'avais 3 ans d'école à faire avec 3000 francs à l'époque.
Elle est payée cette école, non ?
On n'est pas payé, je touchais le chômage en fait.
Ah d'accord, pendant 3 ans vous n'auriez pas été payé. Donc
ben, j'aurais touché le chômage.
Ouais, donc c'était une nécessité.
De,
ouais.
3000 francs. Et donc je me suis dit, bah, si j'ai un poste sur Brest... Je ferai bibliothécaire, quoi. Et donc, voilà, j'ai eu un poste sur Brest au service historique de la marine. Et voilà comment je suis rentrée comme,
donc,
dans la fonction publique.
Il y a une part de hasard. Oui, alors bon, ça, c'est pour le métier bibliothécaire. Moi, je sais par ailleurs qu'après que vous avez été à Pau, enfin, il y a tout un parcours dans différentes bibliothèques. Peut-être vous pourriez décrire parallèlement l'amorce, l'idée, à un moment de rentrer dans un syndicat. Et peut-être parallèlement à votre parcours de travail, parce que c'est lié, je pense.
Alors moi, je viens d'une famille où mon père était ouvrier à l'Arsenal et il était syndicaliste, donc je savais ce que c'était le syndicalisme. J'avais aussi un engagement politique, par exemple, quand j'étais des 20 ans à peu près. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, en fait, la mise en pratique logique de mes idées, c'était de me syndiquer pour la défense des travailleurs.
Et à quel syndicat vous avez choisi ?
Force ouvrière.
Ah oui, alors pourquoi Force ouvrière ? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que c'était un syndicat fabriqué par les Américains, etc., etc.
Alors, j'ai choisi Force ouvrière parce que je connaissais ce syndicat-là, puisque mon père était à Force ouvrière.
Ah oui.
Quand je me suis syndiquée pour la première fois, donc c'était quand j'étais au service historique de la marine, et je connaissais aussi le délégué qui représentait Force ouvrière à l'époque dans ce cadre-là. Force ouvrière, bon, j'ai quand même regardé les revendications des uns et des autres, hein, parce que je ne me suis pas syndiquée au hasard par rapport à ce que je connaissais du monde du travail. Force ouvrière et la CGT ont des revendications à peu près, qui se recoupent très souvent. Par contre, ils ont un mode de fonctionnement qui est extrêmement différent et qui a fait que j'ai choisi Force ouvrière.
C'est quoi cette différence qui vous a fait choisir l'un plutôt que l'autre ?
Alors, c'est l'indépendance par rapport aux partis politiques.
Pour la CGT, ça serait quoi, le Parti communiste ?
Alors, ça peut être le Parti communiste, mais c'est un peu comme quand on dit que Force ouvrière, c'est la CIA.
Oui,
CIA. Non, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'à la CGT, on paye sa cotisation quand on est adhérent au syndicat national et le syndicat national la redistribue aux syndicats départementaux. Donc, le syndicat national, c'est lui qui décide, par exemple, qui c'est qui va au congrès. C'est lui qui désigne. À Force ouvrière, c'est l'inverse. On paye sa cotisation au syndicat de base. Le syndicat de base, donc, en reverse une partie aux différentes structures, dont le syndicat national. Et c'est le syndicat de base qui décide qui il envoie à un congrès ou à une instance quelconque. La décision, elle part de la base et non pas du
D'accord.
sommet.
Ça serait moins centralisé à IFO, voilà. Plus fédératif.
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un fonctionnement qui garantit l'indépendance puisque c'est les gens qui travaillent, les gens à la base qui décident au final des orientations, parce que quand on va à un congrès, on y va avec un mandat qu'on a discuté avec nos collègues et on va dire, bah, nous, on veut qu'on défende telle ou telle chose. C'est pas en haut, on nous dit, est-ce que vous êtes d'accord pour défendre telle ou telle chose ?
D'accord,
et
oui,
après, il y a des discussions qui s'engagent.
C'est important, hein, comme différence. Donc là, vous êtes bibliothécaire à Brest, au service de l'armée, c'est ça ?
Donc, à l'époque ?
Ouais,
au service historique de la défense.
Service historique de la défense, oui. Y a-t-il des luttes là ? Parce que ça a l'air assez. C'est déjà, il n'y a pas grand monde.
Alors, on était liés à l'arsenal. Donc,
ah oui.
Il y avait déjà les ouvriers de l'arsenal avaient l'habitude de se défendre. Et je me rappelle en particulier de. À un moment, ils ont voulu distribuer des primes à la tête du client. Alors maintenant, c'est assez courant, mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout.
À la tête du client, c'est-à-dire selon l'arbitraire, enfin selon le choix du chef.
Voilà, il y avait une enveloppe qui était fixe et il fallait répartir les gens soit dans le premier niveau. Enfin, il y avait trois niveaux, il fallait répartir les gens sur trois niveaux. Mais sachant que l'enveloppe était fixe, si on donnait plus à l'un, ça voulait dire qu'on donnait moins à l'autre.
D'accord.
Ouais. Et donc là, il y a eu une levée de bouclier, mais unanime de tous les collègues, en tout cas dans le service historique, qui ont dit, mais nous, on ne veut pas de ça, on ne veut pas prendre dans la poche du voisin pour mettre dans la nôtre.
D'accord.
Ce qui fait que donc ça a été relayé par les syndicats aux différents niveaux, parce que le service historique de la marine, en fait, il est géré à Vincennes. Hein, c'est un service, là, on est juste une antenne... de plusieurs services historiques. Donc, c'est remonté, parce que c'était dans tous les services historiques, c'est remonté de tous les services historiques de la marine et le projet a été retiré.
Alors maintenant, vous êtes syndiqué, vous êtes bibliothécaire et déjà, vous expérimentez dans une question sur la question des primes. Là. Qu'est-ce qui vous amène à vous, je ne sais pas comment ça se passe. Comment, une fois qu'on est syndiqué, à un moment, vous êtes délégué. Comment ça se passe et pourquoi vous l'avez fait ?
Alors, évidemment, quand j'étais au service historique, j'étais simple adhérente. Par contre, je participais aux instances du syndicat local. Et donc, un jour, on m'a demandé si j'étais volontaire pour aller au congrès du syndicat national. J'ai donné mon accord. Donc là, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça se passait au niveau national, mais aussi dans les autres syndicats de base. Et puis petit à petit, comme on m'avait vu au congrès, on m'a proposé... Ensuite, on a pu me demander de revenir dans des commissions, des choses comme ça. Donc, c'est sur la base au départ du...
Donc, sans être délégué, vous déjà, vous participiez à des tâches de délégué, oui.
Voilà. Et donc, en partant du service historique, donc, j'étais au service historique, j'ai demandé ma mutation pour l'Université de La Réunion.
D'accord,
et quand je suis arrivée à l'Université de La Réunion, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de syndicat FO là-bas.
Il y en avait d'autres ?
Il y avait d'autres syndicats, oui. Il y avait à peu près les syndicats qu'on retrouve un peu partout, hein, la CGT, la FSU, la CFDT.
D'accord.
Mais il n'y avait pas FO. Enfin, en tout cas, à l'université, il n'y avait pas FO.
Vous arrivez comme une missionnaire ?
Et au début, je me dis, comment je vais faire ? J'ai rencontré les camarades.
Vous auriez pu vous syndiquer à la CFDT, à CGT ou...
J'aurais pu.
D'accord.
Mais j'ai rencontré les camarades de FO des autres administrations, donc de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire, et puis tous les syndicats... FO qu'il pouvait y avoir dans les différentes branches, que ce soit le public ou le privé, qui m'ont proposé de m'aider à monter le syndicat FO à l'université. Puisque quand on fait partie d'une FO, c'est une confédération, donc le but c'est d'aider quand on peut au développement du syndicat dans toutes les branches. Donc ils m'ont aidé à monter le syndicat à La Réunion.
C'est intéressant, vous arrivez, il n'y a personne, comment vous faites ? Parce que qu'il y ait un syndicat, il faut qu'il y ait des adhérents, comment vous les trouvez, comment vous les convainquez, comment... Ouais, je sais pas si on dit ça, ouais. Comment vous attirez du monde à vous, ouais.
Alors, ça ne se fait pas en 3 semaines, parce que déjà, quand on arrive, personne ne nous connaît. Donc, il faut attendre un petit peu, discuter avec les collègues. Il se peut, des fois, qu'en discutant avec les collègues, on rencontre des gens qui, sur un autre poste, étaient des adhérents FO. Donc, ça prend plusieurs mois.
Vous repérez les gens qui sont déjà FO quelque part ou qui l'ont été.
Oui.
D'accord.
Enfin, ce n'est pas un repérage, hein, c'est juste en discutant avec les collègues, on finit par savoir. Mais je reste quand même adhérente, je suis toujours adhérente FO, même s'il n'y a pas de syndicat FO. C'est-à-dire que je paye ma cotisation au syndicat national en isolé, en fait. Mmh. Et puis, je me fais connaître aussi, parce que les gens, ils ne vont pas non plus... adhérer sur ma bonne parole. Donc, il faut qu'ils prennent le temps de me connaître. Et au bout de peut-être un an, j'ai été voir des collègues et j'ai dit ça serait bien qu'on monte un syndicat sur l'Université de La Réunion. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Et on commence en général à 3-4. Ah ouais. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que c'est les collègues avec qui on travaille. Et c'est aussi la difficulté parce que du coup, ça fait... Je l'ai fait 2 fois, hein, dans 2 endroits. Au début, c'est comme moi, je travaille en bibliothèque, on dit c'est le syndicat de la bibliothèque.
Ah oui.
Alors que...
On réduit toujours les gens.
Et c'est très dur d'élargir, en fait.
Et vous avez convaincu des gens qui étaient dans un autre syndicat ou qui auraient changé de syndicat à cette occasion, non? Ou qui ont décidé de se syndiquer?
Oui, qui ont... Alors au début, il y avait...
C'est pas rien, ça, parce que bon, c'est une cotisation, il faut payer et... Et de plus en plus, les gens ont un rapport de service à tout ce qui existe.
C'est des gens qui savent, qui avaient déjà un peu d'expérience. Hein. Ce n'étaient pas des gens qui venaient d'arriver. Ils avaient déjà eu affaire au syndicat. Ils savaient que c'était important d'avoir un syndicat pour pouvoir se défendre. S'il n'y a pas d'adhérent, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de syndicat. Mmh. Donc,
il y a eu une lutte qui a donné corps à tout ça ou...
À l'époque, il y en avait. Bon, il y avait des choses, des mouvements nationaux. Il y avait eu le CPE.
CPE, oui, ça bougeait beaucoup.
Contrat à première embauche. Voilà, ça
bougeait beaucoup. Rennes, on s'en souvient notamment.
Et puis après, il y avait aussi des défenses individuelles de collègues. Je me rappelle la première fois que j'ai été défendre une collègue. Il y avait eu une erreur de calcul sur ses congés. Et donc, elle est venue me voir pour que je l'accompagne pour aller défendre.
Oui, c'est là que ça devient sérieux. Alors, comment vous faites? Parce que là, c'est des règlements, des lois, des statuts, des... Un labyrinthe de textes.
Alors là, à l'époque, pour ça, moi, je n'étais pas capable de me repérer dans tout ça. Mais les congés, c'était assez simple. C'est la circulaire de congés. Et puis après, c'était sur le décompte. Quand il y avait quelque chose d'un peu plus compliqué, du coup, je me retournais vers le syndicat national. Je téléphonais et je disais, là, j'ai telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Et on me disait un petit peu ce qu'il fallait faire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à... Au début, je m'appuyais beaucoup sur le... J'avais un interlocuteur privilégié au syndicat national. Je m'appuyais beaucoup dessus. Et puis, petit à petit, je me suis dit, sur telle question, je trouverai la réponse dans tel texte.
Ah oui, vous êtes commencé à vous plonger.
Ça vient petit à petit, parce qu'au bout d'un moment, on a envie d'être autonome aussi. Les questions sont toujours les mêmes. Donc, au bout d'un moment...
Mais c'est moins intéressant que le dessin, par exemple.
Si, c'est intéressant parce qu'on répond, c'est pas tellement l'étude des textes, hein, sinon j'aurais fait du droit, c'est le fait de prendre un texte et d'apporter une réponse à quelqu'un. Et la personne qui est en face de nous, elle est contente parce qu'on apporte parfois une explication en lui disant, c'est normal que ça soit compté comme ça, parce que ça, mais elle a une explication, elle n'a pas l'impression de rien comprendre.
Oui, on rend un vrai service à quelqu'un. Ouais.
Voilà, et des fois, on lui dit, ils ont tort, et puis on amène le texte, et on gagne. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt, d'accord, en fait. Et ce n'est pas moins intéressant que le dessin, c'est différent.
C'est différent, oui. Donc, je sais que vous avez quitté La Réunion. Est-ce qu'au moment de votre départ, vous aviez augmenté vos effectifs ou
Oui, j'avais augmenté les effectifs. On avait commencé à 3-4, mais après, suivant les gens qu'on recrute, bah, y en a qui disent « Ah, bah, Jean-Louis, il est là, bah, moi, je vais adhérer là aussi. » Parce qu'ils font confiance à leurs collègues. Ce n'est pas forcément à moi, mais quand on chope les bonnes personnes... C'est comme ça qu'on s'étend petit à petit. On n'avait pas réussi, parce que j'ai passé que 4 ans, à développer chez les enseignants. On était resté chez les personnels administratifs, mais du coup, on avait développé un petit peu dans les services administratifs, les scolarités et, des choses, et le patrimoine.
Et avec le recul, qu'est-ce qui fait que, bon, vous dites, c'est pas moi, c'est Jean-Louis qui, etc. N'empêche que Jean-Louis vous faisait confiance. Qu'est-ce qui fait? Parce que moi-même, j'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai jamais eu vraiment confiance dans les syndicats, à part vous, justement. Qu'est-ce qui fait que vous avez gagné la confiance, d'après vous?
Je pense que ça peut se résumer en « on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit ». C'est-à-dire qu'on dit... par exemple, on se présente dans ce qui était avant les commissions paritaires. Et on dit, bah, nous, on va défendre les dossiers sur tel critère.
C'est ça, ouais. Vous avez des critères et vous les appliquez.
Et on les applique. C'est clair. Et ouais. Ensuite, une fois qu'on a siégé, on rend compte aux collègues. C'est-à-dire qu'on fait un compte-rendu. Parce que dans cette instance-là,
tous les syndicats font ça, hein. Non.
Les critères, tous les syndicats font ça. Ils font une profession de foi. Est-ce qu'ils s'y tiennent? Moi, je ne sais pas.
D'accord.
Si on va défendre le meilleur dossier, ce n'est pas un critère objectif. Si on dit on va défendre les dossiers des personnes les plus avancées dans la carrière, là, c'est des critères objectifs. Et puis, on...
Oui, il faut une grille et voilà. La respecter. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes délégué au niveau... Vous faites partie du...
Je suis secrétaire générale adjointe du syndicat national.
Voilà, secrétaire adjointe du syndicat national. Donc, vous exercez au niveau national, vous prenez le train sur Paris tous les semaines. Comment s'est passée toute cette transition? Voilà, ça, c'est intéressant de voir... D'abord, vous êtes militant, vous croyez à l'action politique, à l'action syndicale, vous y allez, finalement, vous créez un syndicat, bon, c'est déjà un passage. Alors, quelles sont toutes les étapes qui vous amènent à être secrétaire générale?
Adjointe. Eh bien, donc quand j'ai quitté La Réunion, je suis allée à Pau, et là, je pensais qu'il y avait un syndicat FO, et je suis arrivée, et il n'y avait pas de syndicat FO.
Ah, à nouveau, il faut le reconstruire.
Donc à nouveau, j'ai recommencé, mais là, avec un peu plus d'expérience.
Alors oui, c'est intéressant. Là. Qu'est-ce que vous aviez en plus? Quelle expérience avez-vous acquise qui vous a permis de convaincre des gens? C'est ça le problème, en fait.
Voilà, dès le départ, j'ai essayé déjà avant de créer le syndicat, de trouver des volontaires dans plusieurs services pour qu'on ne soit pas cantonné à la bibliothèque, en fait, et qu'on ne soit pas identifié comme syndicat de la bibliothèque. Donc, c'est ça qui a changé. Et après, c'est difficile. Alors, j'ai commencé à intervenir effectivement beaucoup plus dans les expressions. Enfin, par exemple, dès qu'il y avait des intersyndicales, j'étais déjà un peu plus sûre de moi. Donc,
Et vous maîtrisiez un peu mieux aussi la matière, peut-être.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas rien, j'étais en métropole et donc je pouvais beaucoup plus régulièrement. Déjà, je pouvais accéder à plus de formations parce qu'on a des formations syndicales. Je pouvais me rendre plus régulièrement, déjà régulièrement, parce que quand j'étais à La Réunion, je n'ai jamais été pour le compte du syndicat à Paris. Mais là, je pouvais aller à Paris quand il y avait un congrès, quand il y avait une commission administrative. Alors au départ, moi, comme ils avaient repéré que au national, ils avaient repéré que ayant construit, monté deux syndicats, ils se sont dit là, on tient une militante.
Oui. C'est parce quoi que... les formations, peut-être un mot sur les formations. Qu'est-ce qu'on apprend en formation syndicale?
Alors, la première formation à FO, c'est la formation sur FO, c'est-à-dire comment ça fonctionne.
Ah oui, c'est ça, sont... le statut, l'architecture du syndicat.
L'architecture du syndicat, l'historique du syndicat, les fondamentaux du syndicat, la charte d'Amiens, enfin voilà, des choses comme ça. Donc le premier stage c'est ça, et après il y a suivant si on siège dans telle ou telle instance, on peut avoir par exemple si on siège dans les comités d'hygiène et de sécurité qui sont devenus les CHSCT, qui sont devenus maintenant les F3SCT, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé et la sécurité au D'accord. travail, donc ouais. Où il y a des élus des syndicats. Déjà, il y a les syndicats font des formations pour ceux qui siègent là. Si on siège en CSA, c'est pareil, on a des formations.
C'est tout le rouage d'une administration, les votes, les modes de représentation.
Voilà. Après, on peut avoir des formations à la négociation. On peut avoir des formations sur... la législation européenne, on peut avoir des formations juridiques sur la défense des collègues. Enfin, c'est...
Tout ça prend du temps, ça ne vous empêche pas de travailler, de faire votre travail à la bibliothèque
Non, parce qu'on a quand on fait par exemple une formation, tout ça c'est très cadré et c'est sur le temps de travail. Et donc, on demande l'autorisation de. Alors, les décharges, c'est une chose, mais par exemple, si on n'a pas de décharge, au début, on n'a pas de décharge, hein, parce qu'il y en a très peu, donc on essaye de les répartir de façon judicieuse. C'est-à-dire que si je suis convoquée à une réunion, je donne la convocation à mon administration qui m'autorise à me rendre à cette réunion syndicale.
D'accord, c'est des droits, c'est déjà, enfin, c'est un rouage, en fait, qui est
mis
en place.
C'est des droits syndicaux, ouais, qui sont pour tout le monde.
Donc là, vous êtes à Pau, vous vous investissez encore un peu plus, d'autant plus que vous êtes donc en métropole, c'est-à-dire pas au milieu de l'océan Indien. Hein. Et vous arrivez à Brest, c'est ça hein?
Alors, à Pau, j'ai fait 10 ans quand même, et j'ai commencé là à être sollicitée pour participer aux instances nationales. C'est-à-dire qu'ils avaient repéré quelqu'un qui était battant, qui s'investissait, qui était quelqu'un de militant, parce que dans les syndicats, il y a les adhérents qui sont juste adhérents, et c'est tout à fait leur droit. Et il y a des gens qui s'investissent pour être actifs et qui sont donc des militants. Donc, quand on repère un militant, on essaye du coup de lui donner la place qui lui revient.
Donc là, c'est le sommet qui décide, là. C'est le sommet qui repère quelqu'un.
Oui, en voyant l'activité du syndicat. Mais moi, enfin, le sommet, c'est-à-dire que moi, en tant que... quand j'ai créé les deux syndicats, j'étais la responsable des syndicats. Donc, j'avais de facto des relations avec le syndicat national. Mmh. Donc, effectivement, après, c'est le syndicat de base qui présente quelqu'un, par exemple, pour être à la CA, mais le syndicat national dit, nous, on verrait bien un tel, un tel et un tel. Et donc, le syndicat de base présente cette personne-là. Parce que ça court... Enfin, on ne se bouscule pas au portillon. Hein, parce que
oui,
c'est...
non, mais c'est un travail. Enfin bon, là, vous sous-estimez un peu les choses, peut-être, ouais. Il faut faire son boulot et il faut faire ça.
Et voilà. Ça vient...
Et ça, c'est difficile, ça vous fait des journées qui sont plus grandes que quelqu'un qui ne serait pas à votre place.
Sur le papier, non, mais dans les faits, oui.
Oui.
Et puis ça demande des déplacements, et puis ça demande...
Ah oui, voilà. Et puis c'est toujours à Paris, de Brest,
Alors au début, ça peut être... moi, les premières instances auxquelles j'ai participé, c'était la CA, c'est-à-dire la CA, elle a lieu une fois par an.
La CA, ça veut dire ?
La commission administrative.
Ah oui. Commission administrative, d'accord.
Et puis après, ça se décline en plein de...
Alors maintenant, on va avancer sur... vous arrivez à Brest, donc ?
Oui, en 2017.
Et là, pareil, il n'y a pas de syndicat FO.
Ah si !
Ah, il y en avait un ? Il y en avait un à l'université, mais il n'y en avait pas à la bibliothèque.
Ah c'est-à-dire que...
À la bibliothèque, il y avait...
Il n'y avait pas de syndicat.
Il y avait CFDT et peut-être CGT, je ne sais plus.
Parce que le syndicat... Il n'y a pas de syndicat de la bibliothèque, chez nous, en tout cas, AFO. On n'est pas un syndicat corporatiste. Chaque syndicat est organisé comme il veut. Nous, on n'est pas un syndicat corporatiste, c'est-à-dire qu'à AFO Enseignement Supérieur, on va syndiquer du balayeur des crous jusqu'au professeur d'université dans le même syndicat.
D'accord, oui, c'est le personnel de l'enseignement supérieur.
Donc, il y avait bien un syndicat relativement important sur Brest, donc j'étais contente.
Moi, je crois que c'était la CFDT qui l'emportait à Brest, plutôt.
Non, mais relativement, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était pas deux, trois personnes qui représentaient EFOSR, il y avait des adhérents, c'est un syndicat qui tournait depuis longtemps.
D'accord.
Sans doute que, enfin, le responsable était très connu. Voilà, c'est un syndicat constitué
qui avait sa place. Ouais.
Qui avait sa place. Donc.
Mais je sais qu'à la bibliothèque, donc, il y avait personne, et un par un, les gens sont venus vous voir. Alors, comment expliquer ça même ?
Alors, c'est moi qui ai été les voir, déjà. quand je suis arrivée, donc, pareil, j'ai attendu quelques mois que les collègues me connaissent. Et puis, j'ai été voir les collègues et j'ai dit, bah voilà, moi, je suis AFO, est-ce que tu veux adhérer à AFO ? Et plusieurs collègues ont dit oui. Et donc, on a fini comme ça, petit à petit, juste en allant faisant des tournées régulières. Des gens de service pour discuter avec eux, des problèmes qu'ils rencontrent et tout ça, puis en leur proposant d'adhérer, petit à petit, on a fini par constituer quelque chose.
Mais qu'est-ce qui les a décidés ? Parce que moi, j'étais dans cette bibliothèque, donc j'ai vu l'affaire. Et encore une fois, moi, j'étais convaincu de me syndiquer, mais c'est bien la première fois de ma vie. Pourquoi il y avait la CFDT à la bibliothèque, il y avait peut-être la CGT, pourquoi ils ne sont pas... Comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, que les gens sont venus et on vous a suivi de certaines manières ?
Les premiers qui avaient adhéré, souvent, avaient déjà eu affaire à FO pour les aider. Donc ils se sont dit, bah, tiens, maintenant...
Donc c'était la notoriété du syndicat, ouais.
Les premiers, c'était ça. Et puis après, bah, il y a eu, par exemple, un moment où on a voulu nous enlever des droits qu'on avait acquis sur des histoires de quand on faisait des heures en plus, des récupérations, et ben voilà, le syndicat FO s'est exprimé, a défendu les collègues pour qu'ils puissent garder leurs conditions de récupération, et on a gagné parce qu'on les a toujours. Donc à partir de là, il y a des gens qui ont vu à quoi servait le syndicat et puis qui sont venus. Et après, il a pu y avoir...
Mais quand vous avez fait ça, il y avait peut-être la CFDT derrière aussi, non ?
Bah, ils ne se sont pas beaucoup exprimés dessus, en tout
d'accord.
cas. Enfin, dans mon souvenir, hein, certes, ils étaient d'accord. Mais après, du point de vue des actions, on a été plus actifs, en fait.
Vous étiez au charbon, tout simplement, quoi.
Voilà.
Et ça s'est vu.
Et ensuite, ça s'est su aussi qu'on défendait les collègues sur des problèmes particuliers qu'ils pouvaient avoir.
Oui, il y a eu plusieurs actions. Ouais, et c'est là que ça se passe. On voit quelqu'un qui mouille sa chemise pour défendre quelqu'un qui est mal à cause de tas de choses qui arrivent au travail.
Voilà, on mouille. Enfin, le syndicaliste, lui, il mouille sa chemise, mais il est protégé en fait, parce que derrière, on a toute une structure en fait qui intervient si on embête son délégué. Donc c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir mouiller notre chemise et de pouvoir parce qu'on est un petit peu plus protégé de par la structure qu'on a derrière nous. Par rapport aux collègues, moi, ça m'est arrivé d'avoir de gros, gros ennuis à Pau. En fait, à Pau, l'administration ne voulait pas trop qu'il y ait un syndicat de plus. Et donc, dès le départ, ils ont essayé de me dissuader, en fait, en me faisant de l'intimidation. Ça a été assez loin. Et du coup, ben, le syndicat national s'est mis en branle et ça s'est réglé sur le bureau de la ministre. Et après, on m'a pu embêter.
D'accord. Peut-être là, une petite parenthèse. Je sais pas. Enfin, c'est une question que je me pose, moi, parce que je suis aussi... Enfin, j'étais conservateur de bibliothèque. Moi, j'ai vu des gens dans les conservateurs qui utilisaient le syndicat pour leur propre carrière. Il semble que votre carrière syndicale, à un moment, vous a fait du tort. Et sur les questions de promotion, ça a pu jouer. Qu'est-ce qui fait que ça va dans un sens ou dans un autre? Enfin, s'il y a des réponses à ça, je ne sais pas.
Alors, moi, ce que je dis aux collègues, et c'est pour ça que j'ai choisi FO aussi, c'est que FO, en tout cas, moi, le syndicat FO que je prône et que je mets en place, en fait, c'est un syndicat qui défend les droits, mais c'est pas un syndicat qui cherche des passe-droits. Et déjà, ça fait un peu des différences. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à FO pour booster sa carrière. Parce que nous, on n'est pas dans les petits papiers de l'administration. On est du côté des salariés et clairement du côté des collègues et clairement du côté des collègues. Donc, on a rarement les faveurs de l'administration. Et si on veut aller plus vite que tout le monde, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Et donc, par conséquent, nous aussi, on subit ça. C'est-à-dire que on défend nos droits, mais clairement, c'est pas FO que. Enfin, FO nous a jamais apporté le.
D'accord.
On va pas plus vite que les autres, voire moins vite, mais on se laisse pas marcher sur les pieds non plus.
Alors maintenant, vous êtes donc délégué national. Comment ça s'est passé, ça, ce passage de l'un à l'autre? D'une part, pourquoi ils vous ont choisi et pourquoi vous avez accepté? Parce que c'est un changement de vie. Vous allez à Paris tous les semaines. Etc.
Alors, je savais qu'on cherchait comme je faisais déjà partie du secrétariat, c'est-à-dire que j'étais déjà dans l'équipe de direction, il y avait un changement d'équipe et il fallait qu'on trouve un nouveau secrétaire général et puis qu'on change un peu parce que les collègues, ils partaient à la retraite. Et donc, on m'a demandé si je voulais être secrétaire générale adjointe. Alors, au début, j'ai dit, je vais réfléchir parce que j'aime bien mon boulot de bibliothécaire. Je n'avais pas envisagé d'arrêter si tôt. Je me disais, je ferai mes dernières années de carrière, deux, trois dernières années. Je les consacrerai au syndicat. Sauf que là, en plus, avec la réforme des retraites, ça fait plus que 2-3 ans. Et donc, j'ai pris du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Mais en même temps, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai accepté. En fait.
Quels sont les éléments qui l'ont emporté? Parce que vous avez aussi des enfants, vous vivez à Brest. Vous avez votre travail, qu'est-ce qui fait que... Enfin, si ce n'est pas indiscret, je veux dire...
Bon, déjà, moi, j'aime bien changer changer un peu le milieu dans lequel je travaille tous les 7 à 8 ans. Donc là, j'arrivais à peu près... j'étais arrivée en 2017 à Brest, il fallait que je commence à changer un petit peu des choses, donc j'avais mon rythme normal. Ensuite, vu déjà les responsabilités que j'assumais, puisque j'étais quand même déjà secrétaire nationale, plus je m'occupais de tous les cas de BIATS sur toute la France. Donc, ça veut dire répondre au quotidien à des questions sur les congés maladie, les cumuls d'activités.
Vous avez déjà des fonctions nationales, oui.
Voilà. Et ça devenait compliqué à articuler avec le... Bon, j'étais déchargée à 50%, mais ça devenait compliqué à articuler avec le travail puisque j'avais les contraintes du syndicat plus les contraintes du boulot. Et j'étais déchargée le lundi, mardi et mercredi matin. Et à partir du mercredi après-midi, j'étais sur mes fonctions de professionnelle de travail. Sauf que le syndicat, il ne s'arrête pas le mercredi midi. Et le boulot, souvent, il ne commence pas le mercredi midi. Et donc là, j'étais... Ça faisait beaucoup de pression.
Ouais.
Voilà. Donc là, d'un côté, de me consacrer uniquement au syndicat, ça me libérait de ces contraintes qui n'étaient pas toujours compatibles.
D'accord.
En fait. J'ai plus que les contraintes du syndicat. Bon, je fais avec, mais c'est plus de...
C'est un seul monde, c'est plus facile, ouais.
C'est plus facile.
Bon.
On va voir.
Alors, vous avez commencé ça il n'y a pas si longtemps. C'était à la rentrée, là, c'est ça, hein.
Voilà.
Alors, à ce stade, qu'est-ce que vous pourriez dire? On voit déjà le fonctionnement d'un syndicat, on voit déjà c'est pourquoi les gens bougent au syndicat, ce qu'ils font un peu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Quelle est la différence là maintenant? Quelles sont vos nouvelles responsabilités, vos nouvelles actions à mener quotidiennement?
Eh bien, déjà, il faut réagir à. Oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que je ne faisais pas avant. Enfin, pas de manière aussi.
Aussi
fréquente.
Ouais.
Voilà, et importante, c'est par exemple, s'il y a une déclaration de la ministre, eh ben, il faut réfléchir à prendre un communiqué pour que les collègues puissent s'en servir, pour donner l'avis du syndicat là-dessus.
Il faut être très réactif alors, sur ce qui se passe.
Il faut être très très réactif sur ce qui se passe, oui. Donc, il faut être. On lit beaucoup la presse, on reçoit des dépêches et on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Je participe aussi à deux. On est très sollicité par le ministère pour différents groupes de travail. Il n'y a pas longtemps, j'ai été un groupe de travail sur l'égalité homme-femme.
Oui, là, vous avez rencontré donc la ministre. C'est intéressant parce que, à la fois, le ministre peut vous instrumentaliser ou c'est l'inverse, c'est vous qui instrumentalisez le ministre. Mais comment on se situe comme ça? Il y a le ministre qui vient vous voir, surtout sous Macron, je trouve.
Alors, le ministre, il ne vient pas nous voir.
Enfin, il vous a invité, oui. Il vous a
invité
à venir le voir.
Donc là, ce n'était pas du tout le groupe de travail, mais c'était un rendez-vous. Alors, tous les ministres de l'enseignement supérieur ne le font pas, mais Mme Retailleau le fait. C'est-à-dire que régulièrement, elle voit tous les syndicats, on appelle ça en bilatéral, c'est-à-dire la ministre et le syndicat. Parce qu'il peut y avoir aussi des rencontres multilatérales. C'est la ministre devant tous les syndicats.
Là, il n'y a pas un risque de, je sais pas, de compromission, enfin, j'en sais rien, moi. Comment ne pas être instrumentalisé par le gouvernement et comment lui faire passer la parole que vous portez, donc des salariés qui sont derrière vous, etc.
Alors, je pense que si elle nous invite, elle a aussi besoin d'avoir. On n'est pas dans les grands jeux politiques. Elle a besoin d'avoir des remontées du terrain, parce qu'évidemment, en tant que ministre, elle est. Même si c'est une ancienne présidente d'université, elle n'est plus sur le terrain, elle a autre chose à faire. Donc, elle a besoin de connaître l'état d'esprit des collègues. Et c'est pour ça qu'elle nous fait venir. Et nous, en même temps, et puis parfois, hein, sincèrement, on lui, par exemple, sur les CROUS, là, on a soulevé des choses. Elle a dit, ah oui, il va falloir que je regarde
les
CROUS, ça.
C'est les œuvres, comment c'est le service pour les étudiants qui donne des logements.
Voilà, mais il y a des collègues qui travaillent dans ces CROUS-là. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est ces collègues-là. Et ces collègues-là, par exemple, il y avait, je ne me rappelle plus, c'était des... Oui, pour qu'ils aient, parce qu'ils ont un statut un peu particulier, pour qu'ils aient accès à l'action sociale, il y avait un certain niveau de revenu. On a demandé à ce que le niveau de revenu pour l'accès à certaines prestations de l'action sociale soit relevé, par exemple.
D'accord, là vous faites le relais de cause et parfois c'est entendu, parce que c'est directement entendu par quelqu'un qui a un pouvoir.
Voilà, alors après on n'a pas tellement d'illusions, mais voilà, nous, notre job c'est de porter les revendications des collègues et si on peut devant la ministre, donc dès qu'on peut le faire, on le fait. Alors, il faut que ça soit on porte des revendications collectives, mais on peut aussi porter des dossiers individuels qui seraient complètement bloqués. Donc, à chaque fois, on donne aussi quelques dossiers individuels. Après, ils le prennent en compte ou pas, mais en tout cas, nous, on l'a déposé. Et puis,
d'accord,
on peut revenir dessus.
Donc, il y a un travail d'information très important, peut-être aussi de meilleure compréhension tout le temps des rouages administratifs qui évoluent en plus. Il y a des réunions avec des gens qui ont du pouvoir, comme un ministre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à ce niveau-là de responsabilité?
Il y a la rencontre avec les syndiqués de toute la France.
Ah, vous courez sur la France
Quand les syndicats de base peuvent m'inviter à venir participer à leur assemblée générale, à leur congrès, à leurs choses comme ça. Donc là, depuis septembre, j'ai été pour l'instant invitée à l'assemblée générale de Strasbourg. Donc j'ai rencontré les adhérents de Strasbourg, on a échangé.
Quel est l'intérêt parce que vous portez une question particulière dans le syndicat ou
Alors, moi, je peux donner des explications sur des questions qui se posent. Par exemple, là, les collègues, ils avaient beaucoup de questions sur les mesures pouvoir d'achat de Guérini.
Les achats de
Les mesures pouvoir d'achat qui ont été annoncées par le ministre de la fonction publique. Mmh. Donc, ils avaient des questions par rapport à ça. Qui c'est qui allait les toucher et si je suis à temps partiel, combien je vais toucher. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des questions pratiques auxquelles je pouvais répondre. Parfois, c'est eux qui apportent un problème qu'ils ont et du coup je dis je le prends et je dis on va regarder ce qu'on peut faire au niveau national parce que si ce problème là se répète un peu partout du coup ça devient un problème national et du coup on sait qu'on doit sortir un tract ou un communiqué sur le sujet. C'est aussi savoir ce qui se passe dans les établissements, quoi.
Alors, on voit votre activité, on voit à quoi sert un syndicat, comment ça fonctionne. Si on allait maintenant sur le plaisir, le plaisir au travail, le plaisir syndical, enfin, quand je dis le plaisir, c'est vaste, c'est les raisons. Pourquoi faire ça? Pourquoi aller au boulot? Pourquoi être syndiqué? Pourquoi faire ce travail? Pourquoi aller à Paris? Pourquoi, je pense que votre agenda est plus rempli qu'avant. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ben déjà, c'est très gratifiant, en fait, quand on le fait bien.
Ah, quand on le fait bien, il faut le dire, ouais.
Ben oui, parce que quand on le fait bien et qu'on est vraiment au service des collègues, ils nous remercient, en fait, tout simplement. Ils sont très reconnaissants. Et mon père, qui a 80 ans et donc qui a, à l'époque, il a pu partir à la retraite à 55 ans, il y a encore des gens qu'il rencontre dans les rues de Brest qui se rappellent de lui et qui le remercient encore.
Donc, une aide qu'il leur a apportée à un moment, enfin le soutien institutionnel.
Voilà, pas institutionnel, mais syndical.
Syndical, oui, mais enfin quand je dis le soutien d'une institution, c'est pas rien. Quand on a un problème avec, moi ça m'est arrivé, quand on a un problème avec, je sais pas, avec l'université, c'est pas rien d'être porté par un syndicat.
Donc ça, c'est quelque chose...
Quand on le fait bien, parce qu'on peut le faire mal aussi peut-être, là.
On peut faire du syndicat pour mettre le syndicat au service de sa propre carrière. Là, ouais, coup, les collègues, ils ne sont pas dupes.
Collègues ne sont pas dupes.
On a moins de reconnaissance quand même. On a peut-être la reconnaissance de l'administration et du porte-monnaie, mais on n'a pas forcément la reconnaissance des collègues.
Parce que les syndicats sont, malgré tout, en perte de vitesse pour plein de raisons. Hein. Pas ça. Mais peut-être aussi que les gens se disent « Ouais, de toute façon, c'est leur truc, ce n'est pas le nôtre. »
Mais là, quand je dis quand on le fait bien, je ne parle pas de que FO ferait mieux que les autres, en fait.
Ouais, non, j'ai bien compris
c'est
ça.
Vraiment le délégué, s'il le fait en son âme et conscience, et vraiment en étant au service des collègues, il a beaucoup de reconnaissance de la part des collègues.
D'accord.
Il peut y avoir des délégués FO qui le font dans un but égoïste. Et voilà,
Donc, il faut un certain altruisme. Et cet altruisme, il est gratifié par les gens qui reconnaissent votre travail, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et alors au début, mais même l'administration, en fait.
Même l'administration, c'est utile pour elle, ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand il n'y a plus de syndicat pour discuter, il n'y a plus personne. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et moi, en général, quand je suis arrivée dans... Parce que j'ai beaucoup bougé au niveau professionnel, quand j'arrivais dans un endroit, les chefs de service, ils se disaient... Oh là là, comment on va faire avec elle? Et quand je partais, ils disaient, comment on va faire sans elle, quoi. Voilà.
Mais ça, c'est un compliment, ouais. Ouais, ouais.
Mais par contre, ce qu'il faut aussi c'est pour ça qu'il y a un peu de pression quand même, pour le délégué syndical, c'est qu'il faut qu'il soit un peu irréprochable au niveau boulot, qu'il soit compétent et irréprochable. Parce que...
Ouais, mais là, justement, ça, c'est une question aussi. Vous travaillez plus, donc vous travaillez plus comme bibliothécaire. Vous allez perdre le métier, enfin vous...
Oui, c'est pour ça qu'on le fait plutôt en fin de carrière. Ouais. On essaye quand même de garder le contact et tout, mais nous, on distribue très... Dans notre syndicat, en tout cas, on distribue très peu de décharges complètes et c'est plutôt pour les gens en fin de carrière.
Ah oui, c'est bien,
voilà.
Ça.
Par exemple...
Ça évite de faire de vous une femme politique professionnelle ou un syndicaliste professionnel.
Voilà.
On reproche aux politiques, ouais.
Et on essaye au maximum de garder un ancrage professionnel. Sauf que c'est pas tellement, là, c'était pas tellement compatible avec la fonction de secrétaire générale adjointe.
Oui.
En tout cas, de mon point de vue, j'aurais pu, hein, si j'avais voulu garder une journée. Mais après, une journée au boulot, c'est un peu compliqué.
Moi, ça sert à rien, je pense. Enfin, si vous êtes qu'une journée, qu'est-ce que vous allez faire, hein?
Voilà. Le secrétaire général, qui est maître de conf, il continue à donner des cours.
Ah ouais.
Pour l'instant. Bon, il est...
Ouais. Là, on a parlé de, bon, bah, des gratifications, enfin, au sens, comment, pas au sens de l'argent, quoi que ce soit, simplement, le retour des collègues, par exemple, c'est très important, hein. La raison sociale. Après, c'est intéressant de voir aussi les problèmes, qu'est-ce qui, moi, il m'est arrivé, donc, à cause ou grâce à vous, de défendre un collègue pour des raisons syndicales, et j'étais pas forcément d'accord. Et je me suis aperçu qu'on peut avoir, en tant qu'individu, une contradiction entre une parole collective, bien normée par des critères, et son point de vue individuel. Comment on s'en sort avec des questions comme ça qui ne doivent pas manquer ?
C'est sûr qu'il y a des fois, c'est un petit peu compliqué. On peut avoir un avis professionnel sur une chose et un avis syndical, un autre avis syndical sur la même chose. Donc, quand on, moi, en tout cas, comment je le gère, c'est que, bon, moi, je suis Joanne, j'existe, j'ai des idées et tout ça. Quand je suis la déléguée FO, je suis déléguée et je suis la porte-parole des collègues qui m'ont mandatée. Et donc, je suis juste un porte-parole.
Mais comment
si eux, ils ont décidé que je devais défendre ça... Je défends ça. Ah, maintenant, il ne faut pas que ça soit non plus aux antipodes de mes convictions.
Et ça peut tomber dans la langue de bois, si. C'est-à-dire une langue commune, préfabriquée, des mots d'ordre, des éléments de langage, comme on aime à dire aujourd'hui.
C'est toute la difficulté de l'exercice syndical. Moi, j'essaye d'avoir les revendications, quand les collègues disent on n'est pas content, d'avoir la revendication la plus précise possible. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le consensus est plus facile sur une revendication précise que sur quelque chose de vague. Par exemple, je prends augmentation des salaires. Bon, allez, on est tous pour l'augmentation des salaires. Et si demain, Macron nous donne 10 centimes par mois, il y en a qui vont être contents, puis il y en a qui ne vont pas être contents. Enfin, voilà, lui, il peut dire...
Là, non, mais l'action concrète est plus facile à évaluer.
Et,
ouais.
Et par contre, si je dis 10%, eh ben c'est... On est d'accord, on se met d'accord, hein, ça peut être 10%, 20%, 15%, 10%, on est bien d'accord tous sur 10%, on défend tous bien la même chose, et là on est plus fort.
D'accord.
Donc on essaye de... alors des fois, c'est la revendication, elle est en deçà de ce que moi j'aurais aimé, mais ce qui fait le consensus, c'est ça. Donc si ça me paraît acceptable, ben, je m'y associe.
D'accord, une parole politique forte, une parole syndicale forte, c'est une parole qui a été partagée, discutée, qui est passée
qui est
par les procédures. Et collective, ouais.
C'est surtout un mouvement collectif. Donc après, dans ce collectif-là, nous, on est des individus et on discute. Des fois, à FO, on n'est pas d'accord et ça discute des fois assez vigoureusement entre nous parce qu'on est... ont chacun son point de vue et tout ça. Et puis, bah, petit à petit, les positions, elles évoluent et on arrive à un consensus.
D'accord. Peut-être, parce que bon, l'heure tourne à toute vitesse, avenir des syndicats, parce que moi, je le vois plutôt noir, mais moi, je suis quelqu'un de pessimiste. Parce que tous les corps intermédiaires, du syndicat à l'église, sont en train de t'être attaqués, et puis les gens se retrouvent plutôt tout seuls que fédérés. La classe ouvrière aujourd'hui, mon père faisait partie de la classe ouvrière, aujourd'hui un ouvrier ne fait pas forcément partie d'une classe ouvrière, il est pauvre gars qui lutte pour lui. Quel est l'avenir, qu'est-ce que vous voyez, les grandes lignes d'évolution, ou les possibilités, les opportunités possibles, je ne sais pas.
Alors moi,
c'est vaste comme question, hein. Je suis désolé, prenez-la comme vous voulez. Ouais.
Moi, j'ai pas une vision aussi pessimiste parce que sinon je m'engagerai pas. Je pense que le syndicat, en tout cas, est quelque chose d'indispensable pour défendre les intérêts des travailleurs. Et plus ça va, plus on en a besoin, puisque on voit bien que maintenant il faut quand même des mouvements très forts, soit pour défendre quelque chose et le garder, je ne parle même pas de gagner quelque chose.
Oui, mais les abonnés, enfin, ou les abonnés, les adhérents diminuent, non ?
Pas forcément, non.
Ah, pas forcément, d'accord.
Non, parce que en fait, souvent, ce qui est dit, c'est qu'on compare à l'Allemagne ou à je sais pas quoi, sauf que là-bas, l'adhésion, elle est obligatoire. Donc,
oui, c'est pas pareil, ouais.
Forcément, on a moins d'adhérents. Ici, en France, les syndicats restent quand même très forts parce que c'est une adhésion volontaire. On n'est pas obligé d'adhérer. Et quand le syndicat y gagne quelque chose, ça s'applique à tout le monde, pas qu'aux syndiqués.
D'accord.
En fait. Donc, comparativement, en fait, les syndicats restent quelque chose de fort. C'est un élément de résistance important. C'est pour ça qu'on a gardé des choses que d'autres pays autour de nous ont perdues, parce que les syndicats restent forts.
Ah, les syndicats ont leur rôle dans le fait que la France est encore pas trop démantelée du point de vue de...
Bah, la Sécu, c'est bien, si elle est encore ce qu'elle est ici, c'est bien parce que les syndicats
D'accord.
ont encore du poids et de la force.
Alors on va finir, parce que là, je crois qu'on va arriver à l'heure, sur conseiller un jeune qui voudrait s'engager... D'une manière générale, sur tout simplement la défense des travailleurs.
Alors, si c'est un jeune étudiant, c'est plutôt vers les mouvements de jeunesse qui sont quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, qui ont des orientations beaucoup plus politiques que les syndicats de travailleurs, et c'est normal. Donc moi, je leur conseillerais plutôt que de... Moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, bon, je râle, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Et ça peut de... Le fait de s'engager, en fait, ça donne du sens. On ne subit plus, mais voilà, ouais. on essaye d'avoir une influence et une action sur ce qui nous embête, quoi, plutôt que de le subir et puis de faire l'autruche. En fait.
Donc c'est l'engagement, ouais.
Et contrairement, j'en discutais justement hier avec des collègues syndiqués qui étaient profs dans le secondaire et qui constataient que contrairement à ce qu'on dit, les jeunes ne sont absolument pas dépolitisés et désengagés. Certes, c'est pas forcément dans les mêmes structures que ce que nous on a connu, mais ils ont leur forme d'engagement et les discussions qu'on peut avoir avec eux au quotidien quand on les croise sur le campus, très vite, ce sont des discussions politiques. Et donc, moi, j'ai confiance, je leur dis, allez-y, parce que le changement, ça viendra à travers vous.
Le changement, c'est maintenant.
Travers nous. Non, c'est avec vous.
Ok, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Et merci beaucoup, Joanne.
Merci.
Donc, Joanne Mercher, qui est déléguée, redite à la fonction, j'ai oublié déjà.
Secrétaire générale adjointe de FOESR.
Secrétaire générale adjointe de FOESR, enseignement supérieur.
Et recherche.
Merci beaucoup, Joanne.
Merci, Hervé.
Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.